J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André Dimboujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. La population de l'Ituri souhaite que l'année 2022 soit une année de paix et de développement sur toute l'étendue de cette province. Il salue toutes les initiatives du gouvernement, notamment l'état des sièges, la mutualisation des forces et les programmes de désarmement et de démobilisation qui offrent une lueur d'espoir pour l'année prochaine. Par ailleurs, les 7 membres du nouveau comité provincial de l'église du Christ au Congo SCC, installé officiellement dimanche 9 janvier à Goma dans la province du Nord Kivu, ont été appelés à travailler pour la paix et la promotion de la cohabitation interethnique dans la province, tout en affirmant que la mission de l'état des sièges de l'église est la promotion de la paix. Que pensez-vous de ces appels 8 mois après l'instauration de l'état des sièges? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis en onde par Bob Landou. Et Louange Vangou est à la réalisation. Quant à moi, Pierrot et la Mégis, c'est un réel plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, appelez au 081-890-4969 ou au 081-890-6330. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et nous sommes ensemble pour près de 55 minutes d'échange autour de cette question. 8 mois après l'instauration de l'état de siège, les populations de l'Ituri du Nord Kivu appellent à la paix pour l'année 2022. Nous faisons le point avec vous. Vous êtes nombreux à vouloir commenter ce sujet d'abord sur notre page Facebook. Et dans ce studio, nous avons associé honorable Mohamed Boulé, député national, général à la retraite et ancien vice-ministre de la Défense. Monsieur Mohamed Boulé, bonjour.
Bonjour.
Meilleurs vœux.
Merci pareillement.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle encore à nos auditeurs que nous avons eu avec vous la première émission lors de l'instauration de l'état des sièges.
Tout à fait.
Et vous êtes député national. Et quelle est votre lecture 8 mois après l'instauration de l'état des sièges d'une manière globale?
Merci. 8 mois après l'instauration de l'état des sièges.
Ok, oui, on y va. Oui, oui.
Oui. Toutes ces préoccupations que vous savez nous ont amené à l'Assemblée nationale pour la prorogation de l'état de siège autant de fois, jusque durant ces 8 mois. C'est pratiquement tous les 15 jours que nous exerçons cela. Et que, de manière particulière, il y a la loi d'habilitation pendant nos vacances parlementaires qui vont permettre à ce que le gouvernement puisse nous remplacer pour relayer de façon que la prorogation de l'état de siège fasse. Oui, au départ, c'est uniquement les forces armées qui étaient engagées avec aux côtés la police nationale congolaise et bien entendu, depuis plus de 20 ans, la MONUSCO. On a les résultats que tout le monde décrit, les gens s'impatientent pour que cet état de siège prenne fin. Mais pour cela, il faut pacifier ces espaces, ces provinces, notamment la province d'Ituri, et aussi la province du Nord Kivu. Et c'est accentué depuis l'état de siège, beaucoup des tueries et tout ça. Et c'est pourquoi la population s'en inquiète. Et comme vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, à travers notre commission défense et sécurité, il y a eu l'évaluation de cet état de siège, il y a eu audition de certains membres du gouvernement, et à l'issue de cela, des recommandations ont été faites au gouvernement pour prendre en compte, en vue de la poursuite de ces opérations, parce que tant que cela, on n'aura pas la paix dans tous ces espaces. Donc, il est aberrant de penser qu'il faut arrêter, il faut réqualifier, comme d'aucuns auraient dit. Et Et s'est ajouté, avec des accords entre deux pays, des chefs d'État, des opérations mutualisées, qui étaient aussi, souvenons-en, une des recommandations consignées dans ce que l'Assemblée nationale avait proposé au gouvernement. Mmh. Et depuis cela, nous suivons ces opérations, comment elles se déroulent. Et à chaque fois qu'il y a prorogation, le membre du gouvernement, notamment le ministre, madame la ministre, ministre d'État de la Justice, répond aux préoccupations des députés nationaux quant à l'évaluation de cet état de siège, au bilan. Et là aussi, par le secret des opérations, tout ne peut pas être dit au micro de manière publique. Et il y a un cadre idoine qu'il faille accepter pour cela. Le problème de la poursuite, oui, j'ai lu qu'il y a quand même des retombées en ce qui concerne. On se demandait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poursuites maintenant. Il y a des poursuites judiciaires. Mmh. Et donc, du moment où les arrêts sont rendus, nous faisons confiance parce qu'il faut certainement que toutes les preuves à charge ou à décharge soient réunies pour pouvoir, une fois que l'affaire est en justice, donc on ne peut que s'éteindre.
Est-ce qu'il y a des choses que vous estimez que qui devraient être faites pour rendre les opérations pendant ce moment d'état de siège plus efficaces, qui n'ont pas été faites? Vous considérez que ça devait être intégré? Et que si on intègre cela, ça peut encore rendre plus efficaces les opérations pendant cette période.
Il n'y a pas... Les opérations militaires obéissent à certaines règles. Notamment, il faut avoir la situation de l'ennemi. On a affaire à des groupes armés, des terroristes, et cela, c'est le travail que le service des renseignements doit mettre à la disposition pour permettre à la hiérarchie, au commandant, parce qu'il y a la mise en œuvre, que c'est le chef de l'État qui actionne cela, il est secondé par le chef d'État-major général, pour pouvoir maintenant préciser, élaborer des directives opérationnelles qui permettent aux troupes engagées d'agir. Et en cela, il faut leur donner des moyens, moyens logistiques. Ça va, et de leur morale aussi, il faut qu'ils soient payés. Et leurs familles, là où ils sont, il faut les ravitaillements. Et donc, on ne peut pas se permettre pendant les opérations de commencer à manger que des repas chauds. Or, les opérations, il faut exploiter le succès, poursuivre, et pour cela, il faut des moyens logistiques. Mmh. Et notamment les rations, les appuis faits et les appuis médicaux. Parce que là, au point de chute, ce ne sont pas seulement que des militaires. Ceux qui fuient, on trouve nos frères et sœurs qui sont tués, d'autres agonisants. Il faudrait qu'on puisse les récupérer par le service de santé militaire qui puisse les prendre en charge. Mmh. Tout ça, ça demande des moyens, ça demande des moyens financiers parce qu'il faut acheter les médicaments, il faut acheter les équipements idoines, il faut acheter les munitions parce que, disons, l'intensité de feu et la poursuite de l'ennemi exige à ce que les militaires soient à mesure de répondre à sa mission.
Mmh. Et, mais quand on regardait, est-ce qu'on peut dire qu'on avait placé les attentes très très hautes au niveau de la population, en parlant de l'état des sièges, que les gens estimaient que c'était automatiquement qu'on pouvait mettre fin à la guerre, parce que 3 mois après déjà, 4 mois après, les gens se plaignaient, mais oui, mais état des sièges, c'est comme avant l'état des sièges, qu'on doit, on doit revenir à l'administration normale avec des gouverneurs civils. Est-ce qu'on n'avait pas tellement placé les attentes de la population très hautes en mettant en place l'état des sièges?
Il n'était pas question de mettre... D'ailleurs, même cette population s'est exprimée pour dire qu'il faudrait vraiment des moyens conséquents, il faut un état des sièges. C'était quand même un certain moment exigé. Tenez, la complication, c'est dans les renseignements. Et ce n'est pas un secret. Lorsqu'avant l'indépendance, il y a cette mission d'immigration des Mayas Rwanda, nous lisons l'histoire. Nous sommes aujourd'hui en 2022, on ne peut pas ne pas faire marche arrière, rentrer, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant, après l'indépendance, jusque dans nos jours. Mm-hmm. Il y a ces mouvements migratoires qui n'étaient pas contrôlés, on le sait, parce que en 1960, notre population avoisinait à peine 14 millions. Est-ce que les espaces que nous avons, 2 345 000 km, étaient suffisamment occupés? Qu'est-ce qui a motivé à ce qu'on organise les mouvements du migratoire vers le Nord Kivu et aussi vers les industries, parce qu'il fallait trouver une main-d'œuvre, notamment une manière de Katanga. Et tout ça, ce sont les conséquences. Aujourd'hui, si on est dans ces espaces-là, les problèmes véritablement interethniques ne se posent pas entre les autochtones qui se reconnaissent regroupés dans les différentes communautés. Mais il y a des générations de ces mouvements migratoires avant l'indépendance, après l'indépendance, ceux qui sont nés dans ces espaces et en plus de ça, ceux qui sont nés et les enfants avec les mariages exogamiques et les enfants nés des couples de ceux qui sont venus par rapport aux autochtones. Tous ces aspects-là doivent être réglés. Et parce que vous savez, le problème de nationalité ou de naturalisation a posé problème à la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais réglé cette question-là pour qu'on sache identifier. Et donc, l'état civil ne fonctionne pas. Avouons-le. Mm-hmm. Et donc, on ne sait pas qui est qui détient la carte d'électeur. On a eu à constater que même ceux qui sont là, ben, faute de mieux, ils se présentent avec la complaisance et on dit, voilà, il est reconnu congolais.
C'est-à-dire que la question, elle ne peut pas être seulement militaire, elle doit être transversale hein, pour pouvoir régler cette question de l'insécurité.
Tout à fait. On a des questions tout à fait transversales, sociologiquement parlant. Si on tient compte de tout cela, est-ce que, pourquoi cela? Lorsqu'on est dans les Massissi, par exemple, mais ça a des problèmes, des implications socio-économiques. Les gens qui sont là, dans les Massissi, est-ce que si aujourd'hui on fait, depuis qu'on a fait le recensement scientifique, ça date de très longtemps, et on n'en a pas fait, aujourd'hui, est-ce qu'on est à mesure de maîtriser toutes ces générations qui sont arrivées? Est-ce qu'ils sont congolais? Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Mais c'est ça le grand problème. Voilà. Et donc, ce sont des aspects au niveau politique, au niveau international. Il faut évoquer avec force, parce que sans quoi, ce qui en train de se faire là-bas, les gens qui disent que nous voulons l'unité du Congo, d'accord. Mais ce qui nous arrive ici, donc c'est une question hautement stratégique et il faut, c'est question de patriotisme. Nous devons avouer qu'il faut mettre de l'ordre. Est-ce que c'est pour demain, c'est pour 3 mois et quoi? Maintenant, même les élections qui vont avoir lieu, les recensements et tout ça, ce sont des questions majeures qu'il faut analyser froidement tout ça.
Voilà, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Justin, vous êtes à Arou, Maître Lidor à Kananga et François à Tshikepa. Nous ouvrons la ligne avec vous, nos auditeurs. Justin, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Arou. Bonjour et bienvenue dans Paroles aux Auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à notre invité.
On vous écoute Justin.
Oui, la résolution des problèmes de l'Ituri et du Nord Kivu ne viendra pas d'une simple déclaration politique non appuyée par une des stratégies et des actions dignes d'une guerre, mais aussi réduire les problèmes qui sont liés au conflit interethnique. C'est une bonne chose d'encouragement qu'il faut soutenir malgré l'état de siège peut nous donner un résultat quand même positif. Mais la meilleure façon de combattre l'insécurité, c'est la consolidation des collaborations entre les civils et les militaires. Monsieur Pierrot, je peux demander au gouvernement de doter à notre force armée de tenues. Vous allez voir comment un militaire peut aller dans la guerre, mais sa tenue est déchirée. Il a fait. Mais comment pouvez-vous demander? Comment pouvez-vous dire par rapport à ça? Et donc, moi, je demanderais que vraiment notre gouvernement puisse améliorer la vie sociale de nos militaires et nos policiers. Voilà, c'est vraiment ma préoccupation que j'aimerais donner.
Merci, merci beaucoup, Justin. Vous dites que la question de la résolution des conflits au Nord-Kivu et Nuituri, ça ne peut pas se terminer par une simple déclaration politique. Vous saluez l'état des sièges, mais vous estimez qu'il doit y avoir une collaboration, une consolidation de la collaboration entre les militaires et les civils, au-delà du fait que le gouvernement doit prendre la responsabilité d'améliorer les conditions de vie et les conditions de travail de militaires. Merci beaucoup, Justin. Maître Alidor, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de votre émission.
On vous écoute, oui.
Monsieur Pierrot, nous avons tous suivi les cris de cœur de la population de l'Ituri en général, parce qu'au cours de l'année 2021 qui s'est écoulée, cette population a tout vécu, Monsieur Pierrot. Il y a eu des viols, il y a eu des enlèvements, il y a eu des tueries odieuses, des prises d'otages, politiques de boucliers humains. Tout cela était devenu le pain quotidien de la population de l'Ituri. C'est comme ça que cette population qui a tant souffert, qui a vécu les affres de cette guerre nous imposée par les ADF et qui chaque jour qui passe est en train d'endeuiller cette population de cette partie du pays. Cette population ne veut plus que cette année, l'année 2022 puisse revivre encore les affres de l'année 2021. Et pour que cela soit possible, que cette population puisse réellement vivre en paix, la première des choses, c'est la collaboration entre la population et les forces loyalistes. Allez-y vous rendre compte, M. Pierrot, que la population, l'ennemi vit dans la population ne dénonce pas. Alors la population, dans ce cas, est en train de vouloir quelque chose et son contraire à la fois. On connaît des politiciens, on connaît des officiers, on connaît X, Y qui coopèrent avec l'ennemi, mais on ne dénonce pas cet ennemi-là. On ne dénonce pas ces pourvoyeurs de fonds aux ennemis. Alors comment est-ce qu'on imposer la paix dans cette partie du pays? Ça, c'est la première des choses qui doit se passer. Cette franche collaboration entre population et force loyaliste. La deuxième des choses, M. Pierrot, l'état de siège aujourd'hui à Montpellier. Parce que 8 mois après son installation, sur terrain, on n'a pas senti les effets positifs. Il n'y a pas eu d'impact positif de l'état de siège. Donc la donne est restée la même ou carrément la situation est allée de mal en pis. Alors qu'est-ce que l'on doit faire? Nous avons tous apprécié le gouvernement qui a recouru à l'état ougandais pour mutualiser les forces. Donc c'est une reconnaissance que l'état de siège n'a pas produit les effets escomptés. Mais cette mutualisation de forces aujourd'hui entre FARDC et UPDF, nous sollicitons que cette mutualisation effectivement puisse amener le pays à anéantir de la plus belle manière l'ennemi ou les ADF. Et aussi, M. Pierrot, les forces loyalistes, c'est comme le prédécesseur venait de le dire, les conditions socio-professionnelles de nos FARDC. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre ou penser que vous n'avez pas une armée forte tant que l'armée n'est pas équipée. Il faut d'abord commencer par équiper nos forces loyalistes. C'est cette motivation-là qui fait vivre. Moi, j'ai proposé qu'il y ait même une prime de militaires au front. Cette prime de renforcement-là, ou d'encouragement des militaires qui sont au fond. Ces gens-là, ils sont dans quelles conditions? Ils vivent dans quelles conditions? Comment ils s'habillent? Ils ont quelles munitions? Et au-delà de tout, il faut que socialement ces gens-là se retrouvent. Parce que comment vous allez envoyer quelqu'un pour aller combattre l'ennemi ventre affamé, M. Pierrot? Donc c'est tout cela qui peut faire qu'aujourd'hui, l'État congolais avec ses partenaires, s'il mettait les bouchées doubles, en harmonisant les vues avec la population, en inspirant confiance à cette population, et aussi en améliorant les conditions socio-professionnelles de nos forces loyalistes, nous pensons que les ADF ne peuvent pas tenir debout devant les forces loyalistes.
Merci Maître Alidor. Merci beaucoup Maître Alidor. Vous proposez la collaboration franche entre la population et les militaires, parce que vous estimez que des fois l'ennemi se cache dans la population. Vu que l'état des sièges pour vous, il y a eu des limites, parce que les tueries ont continué. Et là, vous soutenez la mutualisation des forces, s'il fallait l'étendre, mais aussi l'amélioration de conditions de vie des militaires. Pourquoi pas, pourquoi ne pas instaurer une prime spéciale pour soutenir ceux qui sont au front? Merci beaucoup. François, vous êtes à Tchikapa. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour, François.
Bonjour, Kirol Imenji. Bonjour à toute l'équipe de Radio Capi. Bonjour, cher honorable Mohamed Boulé, ancien résident de FARDC.
On vous écoute.
Merci bien, monsieur. D'abord, je tiens à féliciter l'équipe de la radiographie parce que vous faites la sélection des thématiques qui font vivre ou qui éveille la conscience de la jeunesse congolaise ou d'une manière générale de la population congolaise. Donc de ce côté-là, vous êtes à féliciter. Mais écoutez, par rapport à cette thématique qui est en cours de débat, moi je dirais que la paix est autrement la vie qui n'a pas de prix, M. Pirot. Mm-hmm. Les problèmes de l'est du pays est l'affaire des puissances étrangères. Et pour ce faire, le président de la République doit par moment rompre des relations diplomatiques avec les États soupçonnés. Mobiliser les organisations de la jeunesse, quant à ces. Jusqu'à présent, les opérations mutualisées en action n'ont fait qu'enregistrer les morts des paisibles citoyens de nos phares d'essai. Le gouvernement doit s'activer en armement pour cette même cause concernant le cas de l'Éthiopie. En Éthiopie, nous avons vu le premier ministre, lui-même qui a pris sa tenue, qui est allé au front pour défendre, donc l'intégrité territoriale de la République éthiopienne. Pourquoi pas aussi ça, pourquoi pas aussi le faire? Il peut se mobiliser avec ses ministres de la défense, de la défense de l'intérieur aussi, et aller au front, ériger même un bureau là-bas, voir comment les problèmes de l'Est pourront prendre feu. Parce que des fois, quand ils sont allés au bureau diplomatisé, qui sont là-bas, quand ils apprennent qu'il y a 10 morts, 20 morts, donc pour eux, ça ne leur dit rien. Mais nous qui sommes. Par exemple, au Kassai, lorsque nous apprenons qu'il y a des morts à l'Est, ça nous fait, ça nous fait mal pour voir le sang de nos concitoyens en train de jaillir. Ce n'est pas bon. Donc, M. Pierrot, pour ne pas prendre beaucoup de temps, le gouvernement, par moment, moi, j'ai recommandé au chef d'État de rompre un peu par moment ses relations avec les pays soupçonnés. Je vous donne un exemple. Comment voulez-vous que Romou et RMG, vous êtes à Kishasa en Gombe, votre voisin ne veut pas de votre femme, ne veut pas de votre enfant. Et vous, Pierrot et RMG, vous continuez à composer avec lui? Non! Quand quelqu'un ne veut pas de votre femme, ne veut pas de votre enfant, il faut rompre les relations avec lui.
Alors, pour vous, François, vous estimez que s'il y a des pays qui sont soupçonnés de maintenir, d'entretenir l'insécurité à l'Est, il faut carrément rompre des relations avec ces pays-là, mais tout en proposant aussi qu'il y ait un engagement costaud, que vous puissiez voir vraiment les membres du gouvernement, le Premier ministre, prendre au sérieux la question de l'insécurité à l'Est et s'y rendre même, s'installer même là-bas pour pouvoir surveiller de plus près la manière dont les opérations se déroulent. Alors, on va écouter Jérémy qui est à Lubumbashi. Olivier, vous gardez la ligne, vous êtes à Kikuta hein, et nous allons revenir dans ces studios pour que notre invité, l'honorable Mohamed Boule, puisse réagir. Jérémy, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour M. Pierrot, bonjour également à l'invité. Je pense que les cris de détresse de nos compatriotes de l'Est d'Ituri sont plus en dehors. Alors moi, je me dis à ce stade, il faut réellement que les gouvernements s'y attellent là-dessus pour pouvoir, n'est-ce pas, recadrer certaines choses, parce que quand je vois qu'ils, dans leurs revendications, quand même, ils essayent d'un côté d'encourager les actions gouvernementales allant dans le sens, n'est-ce pas, à mutualiser les forces et, n'est-ce pas, la démobilisation, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a comme troupes de l'autre côté. Moi, je me dis, à ce stade, il faut une bonne politique adéquate que le gouvernement doit mettre en place pour mettre fin à tous ces cris auxquels nos compatriotes font face. Alors moi, je me dis, tout passera par, d'abord, il faut réunir toutes les communautés œuvrant de l'autre côté de l'Ituri, parce que vous savez que, il y a des fois, on s'est dit, mais jusqu'à quand le peuple de ce côté-là retrouvera l'inquiétude. Moi, je trouve que le problème reste au niveau des communautés elles-mêmes. Parfois, moi, je me dis, on peut peut-être dire que l'insecte qui ronge les haricots est dans les haricots même. C'est ça ce qu'il faut dire. Parce que moi, je me dis, à ce stade, on est en train de déplorer, mais qui est en train réellement d'endeuiller nos compatriotes de l'Est? La question reste pendante. Moi, je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas, on ne peut pas peut-être voir certains membres du terroir qui sont de ce côté-là, qui sont en train, entre guillemets, de perturber la quiétude de leurs compatriotes. Alors, moi, je me dis, il faut réellement qu'il y ait une frange, que les gens se mettent autour d'une même table, se disent les vérités en face. Qui est en train de faire souffrir la population de l'Est? Et jusque-là, mais malgré tout ce qu'il y a comme mutualisation, les efforts du gouvernement, mais on se rend compte que le problème, on revient toujours sur la case de départ. Mais qui est en train réellement, qui est derrière, quelle est la main noire qui est en train d'écumer cette population-là? Mais moi, je trouve que le problème, la réponse est dans les peuples congolais eux-mêmes ou dans cette population qui se retrouve de l'autre côté. Moi, je vois, j'ai entendu, on parlait, il y a même une organisation qui est en train de se faire de l'autre côté pour pouvoir décourager tout ce qui est en train de faire sur le terrain. Alors moi, je me dis que le problème qui est là, il faut que les gens se disent les choses clairement. Et les députés qui œuvrent dans leur coin, vous siégez au Parlement, mais vous devez réellement connaître quel est le vrai problème. Parce que, ou soit s'il n'y a pas la clarté, on peut dire que c'est peut-être en connivence avec les politiques, certains politiciens qui sont là pour pouvoir faire souffrir leur population. Alors moi je me dis, mais... les voix que vous avez, ça vient de la population, mais qui est en train de passer des moments très sombres au jour d'aujourd'hui.
Alors, Germain, si on vous écoute autrement, vous souhaitez, ouais. Vous souhaitez d'abord qu'il y ait un dialogue, hein, vous souhaitez qu'il y ait un dialogue ouais. franche au niveau de communautés, que ce soit en Ituri, que ce soit en Nord-Kivu, que les gens puissent se regarder en face, qu'ils puissent discuter pour qu'on identifie effectivement quelles sont ces personnes qui sont auteurs de l'insécurité. Mais d'un côté, vous estimez aussi qu'il y a la responsabilité, par exemple, des leaders, des élus, parce que ce sont des électeurs. On doit savoir, j'ai été élu telle part, qui en réalité fait quoi. Et on peut arriver vraiment à identifier pour qu'on sache réellement qui sont les personnes qui sont auteurs de l'insécurité. Alors, Olivier et Laurent, vous gardez la ligne. Nous allons revenir dans ces studios pour que notre invité puisse réagir. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro pour intervenir en direct dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons dans ce studio avec vous, Monsieur Mohamed Boulet, député national élu de Bouta. C'est ça?
Ville de Bouta, oui.
Élu de Bouta, et vous êtes aussi un général à la retraite, ancien ministre de la Défense. Vous avez suivi les compatriotes, il y en a qui reviennent sur la question du dialogue, d'identifier qui sont à la base de l'insécurité. Il y en a qui parlent des conditions de travail des militaires, parce qu'on en a déjà évoqué, la mutualisation des forces. Mais on sent dans les auditeurs qu'il faut quand même qu'on ait des mécanismes plus efficaces pour qu'on arrive à résoudre cette question de l'insécurité.
Merci. Quatre intervenants ont posé des problèmes. On fait la lecture, ils ont fait ce qu'ils pensent qui aurait dû être fait, qui ne l'est pas. Mm-hmm. Mais de manière globale, ils reviennent sur le problème de la logistique. La logistique oui. à l'armée, c'est un gros morceau. Ce n'est pas seulement l'habillement. Donc, c'est catégorisé. Il y a au moins plus de 10 classes. De l'habit, à la nourriture, à tout ce qu'il faut pour le confort, même pour les opérations. Parce que un militaire, lorsqu'il va, il a la capacité de transporter sur lui un certain poids pour qu'il ait les réflexes nécessaires mm-hmm. en équipe ou en peloton, dans la structure à laquelle il fait partie, de façon à être efficace sous le commandement d'un de l'air. Ça, c'est évident. Je crois que lors de la défense ou du débat du budget, nous sommes revenus assez souvent et unanimement, nous étions d'accord pour rehausser les budgets de l'armée. Et croyez-moi, ce n'est pas avec la quotité allouée aux forces armées qui permettrait de faire face à tout cela. Et c'est pourquoi nous avons toujours insisté, et j'y reviens encore, pour dire il faut cette loi de programmation militaire qui, depuis la dernière restructuration des forces armées et de la police nationale avec des lois organiques et les statuts qui prévoient tout. Mais jusqu'ici, cette loi n'est jamais déposée formellement au niveau de nos deux chambres.
Monsieur Mohamed Boulet, la loi de la programmation militaire, quel va être son impact par rapport à d'autres textes juridiques?
C'est-à-dire que c'est comme un chèque en blanc. Et donc, les forces armées étudient qu'est-ce qu'il faut faire durant la décennie à venir, durant les 10 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il nous faut pour recruter, pour retraiter, pour assurer la formation continue de nos troupes et aussi les mettre dans les bonnes conditions, les infrastructures, la technologie moderne qui soit performante. Et donc, ce n'est pas avec une petite quantité du budget national. Et donc, c'est un budget, c'est un projet de budget pluriannuel qui peut aller de 5 à 10 ans. Mmh. Et pour cela, il faut aussi un livre blanc qui donne la politique, la philosophie de ce qu'on veut faire pour que d'ici 10 ans, qu'on ait c'est cette loi-là qui est tout à fait spécifique, une loi particulière pour accompagner. La police nationale l'a faite, mais les forces armées pas encore. Mmh. Justin a parlé du problème du conflit interethnique. Le cas de l'Ituri ou du Nord Kivu n'est pas à confondre avec les conflits interethniques. Monsieur Justin, je parle en me référant lorsque, à une certaine époque, j'étais comme gouverneur en Ituri, il y a eu dans les territoires des Haru ce qu'on a appelé chasse aux sorciers et empoisonneurs. Nous connaissons les conséquences, vous y compris, parce que moi-même, j'ai sillonné tous les 8 chefferies, et ensemble avec les communautés, les chefs coutumiers, on a trouvé des solutions, et la justice a mis la main sur les responsables, les instigateurs, et qu'après, lorsque cette structure-là, donc le format dans lequel nous étions en Ituri, a été remise en cause, et je crois que la paix est revenue fatalement dans le territoire de Haru. Aujourd'hui, même à Bounia aussi, il y a eu un problème interethnique et des accords ont été signés pour dire enterrons les armes de guerre. Et on voit les conséquences, mais ça a encore repris. J'étais sur place, je sais ce qui s'est passé à Irumu. Je suis arrivé au moment où 6 membres de CICR étaient tués et en revenant de Fataki, en Djougou. Et donc, le problème qu'il y a maintenant dépasse les cadres interethniques. Parce que dans le contexte actuel, je l'ai dit, il faut visiter l'histoire. Il y a des générations. Des générations du mouvement migratoire avant l'indépendance. Après l'indépendance, l'autre génération qu'il faut prendre en compte, ceux qui sont venus en mouvement migratoire installés avant l'indépendance ou après, ont eu des enfants. Et après, ces enfants avec des mariages exogamiques, il y a encore une autre génération. Est-ce que les communautés avec ce mouvement migratoire, ceux qui sont arrivés, est-ce que ça a posé des problèmes de telle ampleur? C'est ça le grand problème. C'est pourquoi je dis les services de renseignement devaient nous aider à donner les meilleurs renseignements pour que les décideurs puissent, dans le cadre de la mise en œuvre, tel que l'état de siège est décrété pour l'Ituri et le Nord Kivu, puissent s'en servir. Donc, les gens ont dit, je leur donne raison, que ceux qui sont là, la dénonciation ne se fait pas. Parce qu'on connaît dans les villages. Nos villages sont organisés. Une chefferie avec des groupements, des villages et tout ça. Et avec l'ensemble de ce qu'il y a. Sur les plans socio-économiques. Mais ces villages-là qui fonctionnaient, il y avait quand même des industries qu'il fallait protéger. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc, oui, on a le chômage. Tout le monde s'engouffre dans les carrés miniers. Et voilà, celui qui a dit que la communauté internationale y est pour quelque chose. Avant l'indépendance, on parlait de lianes, de cette latex là, les lianes rouges. Et après, lorsque les rébellions ont commencé, on a dénoncé, il faut certifier la traçabilité des minerais qui vénéraient de la République démocratique du Congo parce que ce sont les minerais des sangs. Est-ce que nous entendons encore aujourd'hui qui en profite pour que les troubles persistent, mais qui achète le coltan à ces prix-là, de ce côté? Qui achète l'or? Et maintenant, au niveau de l'organisation internationale, nous sommes membres du Conseil de sécurité. Est-ce que c'est de la même manière qu'on défend? Parce que, quelque part, à titre de rappel historique, quelque part, des mouvements non contrôlés, 3 mois d'Iran, ça a fait plus de 800 morts. Et toute la communauté internationale s'y est mobilisée. Mais depuis l'avènement de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de morts? Cette même communauté internationale, au plus haut sommet du Conseil de sécurité, nous n'entendons pas les mêmes voix. On n'a plus le même message qui faisait que les minerais de sang, et les pillages, de ceci. Voilà, oui. Et qu'en plus de cela, les pays limitrophes qui sont chez nous, il y a d'autres qui fabrique des armes de petit calibre. La traçabilité des armes et les heures de petit calibre. Est-ce que cette communauté internationale qui avait placé la République démocratique du Congo sous l'embargo revient encore avec ces concepts? Mais c'est ça la grande question.
Ça dit qu'il y a beaucoup de ramifications aujourd'hui. Mais est-ce que en faisant ces analyses, on ne risque pas de tomber dans le pessimisme pour dire la question de la paix à l'Est risque d'être une question difficile?
Une question difficile parce que nous sommes placés dans l'état où, c'est, je l'ai dit autrefois, excusez-moi, ça n'engage que moi, nous sommes restés la République démocratique du Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que je ne peux pas me permettre de dire que nous sommes comme un léopard avec son pelage et sans griffes ni ses canines. Parce que nous avons fait, autrefois, nous étions l'enfant chéri quand nous étions éligibles au Fonds monétaire, disons au FMS. Et les avions, les C-130, la formation, ceux de nos vaillants militaires qui sont encore aujourd'hui, ont eu droit à aller aux études à travers d'outre-mer, qui en Belgique, qui aux États-Unis, qui en Grande-Bretagne, en France et en Chine. Mais subitement, nous n'étions la République démocratique du Congo parce qu'il fallait que le président de cette époque-là quitte le pouvoir de la manière que nous connaissons. Nous qui avons dispensé, je suis un grand formateur à Kitona, nous avons dispensé des formations à certains de nos pays, de forces armées de nos pays amis. La République démocratique du Congo est intervenue dans les conflits ici, dans la région, qui au Tchad. Avons-le. Mais aujourd'hui, pourquoi cette même communauté internationale, face à ce que nous avons, ne nous appuie pas, n'accompagne pas la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est parce que, depuis plus de 20 ans, nous avons la MONUSCO, la plus grande force qui puisse exister, mais nous connaissons les résultats. Nous connaissons les résultats aujourd'hui. Comment est-ce que, dans cette partie-là, l'Ituri, je dois le dire, 65 658 km², avec le territoire de Djougou, 8 184 km², Arou, 6 740 km², Irum, 8 730, Mag, 5 221, et Mambasa, la plus vaste, 36 000. Est-ce que la communauté internationale n'est pas capable de nous aider sur le plan? Autrefois, nous étions bénéficiaires de beaucoup de choses dans les renseignements stratégiques. Tout ce qui se passe en Ituri, ces grandes puissances internationales ont la capacité en temps réel de mettre à la disposition des forces armées ou du gouvernement congolais les vrais renseignements en temps réel, parce que satellitaires aujourd'hui que nous n'en avons pas.
Voilà. Ça veut dire qu'il y a cet engagement qu'on souhaiterait voir au niveau international, bien sûr, vu le degré des massacres ou le comportement des ADEF qui sont considérés comme un mouvement terroriste, il faudrait vraiment un engagement franche. Alors, il y a encore les auditeurs qui se sont ajoutés sur notre standard, comme Olivier Takikuit, Laurent est à Kananga, Amos est à Bukavu. Je rappelle encore que nous évoquons l'appel de la population de l'Ituri à voir la paix en 2022, ainsi que l'appel de l'SCC au niveau du Nord Kivu, qui estime qu'en soutenant l'état de siège, qu'il voudra voir la question de la paix devenir prioritaire. Et nous en parlons avec M. Mohamed Boulé, député national élu de Bouta, général à la retraite, ancien ministre de la Défense. Olivier, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, Pierrot, bonjour et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
On vous écoute, Olivier.
Oui, Pierrot, je reviens à ce que l'invité venait de dire. En fait, nous avons la communauté internationale. Je pense que ici, c'est question d'honnêteté dans les engagements. Parce que tout le monde dit être engagé pour la paix. Mais en réalité, Pierrot, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, si nous prenons le cas de la MONUSCO, tout ce qu'il a comme matériel, mais vous savez que depuis toujours, la MONUSCO dit « je ne suis pas venu remplacer les phares d'essai ». Et c'est là qu'ils trouvent le problème à résoudre. Ils sont venus faire quoi s'ils ne sont pas venus aider? Parce que aider, ce n'est pas remplacer, c'est vrai, mais aider, on doit voir que effectivement on est en train d'aider. Et ça, jusque-là, la population, plusieurs fois, vous avez entendu la population dire, écoutez, que ces gens-là partent. C'est pas qu'elle en a marre. Alors, si la population lance un appel aujourd'hui, en fait, ça doit se traduire par deux choses. Première chose, que le gouvernement fasse ce qu'il a à faire et ce qu'il doit faire. Or, de ce côté-là aussi, vous comprenez que le gouvernement semble ne rien faire. le gouvernement n'a qu'un seul mot chaque jour, que la population dénonce les malfaiteurs. Mais ce n'est pas normal, Pierrot. La population est meurtrie et le gouvernement veut culpabiliser la population parce que pour lui, la population ne dénonce pas les malfaiteurs. Ça, ce n'est pas vrai. Les services de renseignement dont on a parlé tout à l'heure, ils semblent ne pas exister. Les FARDC sont là, mais les services de renseignement n'existent pas. Et ça, c'est volontaire. Pour moi, c'est volontairement qu'on ne veut pas fonctionner comme ça fonctionne. Ça, c'est une première chose. Donc, l'appel de la population, c'est d'abord vers le gouvernement qui ne fait absolument rien. Deuxième chose, l'appel de la population s'adresse à la communauté internationale. Que la population et la communauté internationale cessent d'être hypocrites. Ça, c'est un élément qu'on doit dire clairement. L'hypocrisie dans les actions de la communauté internationale est visible. Et de ce côté-là, c'est le gouvernement aussi qui favorise cette hypocrisie en signant des accords qui, en réalité, sont des accords destructeurs. Et un prédécesseur a parlé de les voisins. Moi, à la place du gouvernement, je romprai carrément les relations diplomatiques avec quelques pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Parce que je ne pense pas que la mutualisation soit pour l'intérêt de la population. La mutualisation avec l'ennemi, je pense que si la deuxième guerre avait été menée dans cette stratégie-là, les alliés n'auraient pas gagné. Or, vous savez très bien que les alliés avaient décidé de mener des actions rudes. Et c'est comme ça que la deuxième guerre a été vaincue par les alliés. Mais si on a fait, qu'est-ce que nous faisons dans notre gouvernement? Les traîtres et tous les complices, on les dorlote. Vous avez déjà remarqué que très souvent, on les fait venir, on signe des accords avec eux, et puis ces gens rentrent dans la rébellion. Dernièrement, le président a reçu les anciens seigneurs de guerre de l'Ituri. Nous avons vu, on les a envoyés aller négocier. Mais où en sommes-nous? Ce sont les mêmes anciens seigneurs de guerre qui sont les maîtres à penser de la CODECO et des autres histoires, des autres groupes armés. Donc je crois que le gouvernement doit prendre des stratégies strictes. Il ne faut pas qu'il y ait des complaisances dans cette histoire-là, Monsieur Pierrot. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade.
Merci beaucoup, Olivier. Vous estimez qu'il y a d'abord la responsabilité du gouvernement. Il ne doit pas culpabiliser la population en demandant à la population de dénoncer. Et non, on doit jouer le rôle, parce que les services des renseignements devraient jouer ce rôle, de pouvoir dénicher toutes ces personnes qui sont infiltrées dans la population pour causer l'insécurité. Vous parlez de l'hypocrisie de la communauté internationale. Vous estimez qu'il n'y a pas des engagements franches et sincères envers la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas rompre certaines relations diplomatiques? Vous n'êtes pas d'accord avec la mutualisation des forces, parce que les intérêts ne sont pas le même, et pour vous, le gouvernement devait avoir des stratégies fortes et rigoureuses. Laurent, vous êtes à Kananga. Merci de nous avoir rejoints dans Parole aux auditeurs. Bonjour. Laurent, vous êtes avec nous. Bonjour. Je crois qu'on a perdu Laurent. Le temps qu'on puisse le retrouver, nous allons à Bukavu. Amos, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Monsieur Perrelameji, c'est plutôt à niveau de la province de l'Ituri, dans la ville de Bounia.
Ah oui, vous êtes à Bounia, merci beaucoup d'être avec nous, on vous écoute.
Oui, sinon, l'hypocrisie de la communauté internationale, pour quand en ce qui concerne la tuerie qui se passe ici chez nous à l'Est, c'est une question. Mais la responsabilité de notre gouvernement à mettre fin à ces massacres et à ces tueries est une chose. Pourquoi puis-je dire cela? Vous savez, Monsieur Perrot et Lameji, la beauté du texte ne trahit pas la réalité sur terrain. Ici, en Ituri, la situation que nous, la population iturienne, nous sommes en train de vivre, c'est une situation vraiment macabre. C'est une situation qui est caractérisée par plusieurs misères. L'insécurité, ici, chez nous, en Ituri, est due à plusieurs choses. Entre autres, nous avons dans les premiers éléments, les personnes qui soutiennent cette insécurité sont les Ituriens eux-mêmes. C'est les Ituriens, eux, qui sont responsables de leur insécurité. Parce que de multiples groupes armés qui opèrent ici en Ituri, ce sont des groupes locaux. Ce sont des filles et filles Ituriens qui sont en train de créer la désolation parmi les peuples Ituriens. Pour qu'on arrive au moins quand même à éradiquer ces problèmes, on doit d'abord essayer de conscientiser nos frères qui se sont injectés dans cet enfer. Et c'est là où nous saluons vraiment la décision du chef d'État d'envoyer la task force pour essayer de conscientiser tous les peuples ituriens, les groupes armés, pour les préparer au programme PDDRC, pour leur insertion au niveau de la communauté. Mais néanmoins, nous sommes en train de demander à notre gouvernement de ne pas toujours jeter la fardeau au niveau de chez la MONUSCO internationale. La MONUSCO est là juste pour accompagner notre pays. La MONUSCO n'a pas le monopole de maintenir la paix dans ce pays. La MONUSCO ne peut pas attaquer autant voulu. C'est notre armée, notre force de la République démocratique du Congo qui est la FARDC de pouvoir s'occuper pour essayer de mettre fin à cette tyrannie qui se passe ici à l'Est. Et ainsi, nous sommes en train de dénoncer des cas multiples qui s'en produisent, surtout à Ndjougou. La région de Ndjougou, présentement, monsieur Perron, je vous assure qu'à Ndjougou, il n'y a pas la paix. À Ndjougou, il y a des miliciens qui passent de temps en temps là-bas. Et ils travaillent malheureusement en complicité avec quelques officiers des FARDC. Et à ce type-là, nous sommes en train de demander à ce qu'on puisse faire des réformes au niveau de l'armée. Non seulement qu'on fasse des réformes, et aussi qu'on fait des permutations des officiers au sein de l'armée. Vous voyez, il y a des généraux ici à Ituri qui ont des maisons qui coûtent trop cher, qui marchent dans des voitures luxueuses. Il n'y a même pas moyen d'identifier si c'est un général ou si c'est un colonel. Ils servissent fort ici. Et d'où est-ce qu'ils tiennent, ils soutiennent cet argent, on ne sait pas. Ainsi, nous demandons au gouvernement et de M. Félix Tshisekedi de s'impliquer fermement, de venir s'imprégner de cette situation avec ses propres yeux, et ainsi on pourra quand même espérer à une paix durable.
Merci beaucoup. Vous avez évoqué la question d'Ituriens eux-mêmes. Vous estimez que la responsabilité d'abord des groupes armés, parce que ce sont des groupes armés locaux, ça veut dire qu'il y a la responsabilité locale. Mais d'un côté, vous pensez que tout doit se dérouler au niveau de la responsabilité du gouvernement avec l'armée, tout en saluant la conscientisation de groupes armés, des Ituriens même pour pouvoir abandonner les groupes armés. Mais vous estimez aussi qu'il y a la permutation, la réforme est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des officiers supérieurs, vous estimez qu'ils roulent carrosse, ou ils ont des maisons qui coûtent cher. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour pouvoir se taper ces luxes? Ça aussi, c'est un problème, c'est une préoccupation. Alors, Laurent est revenu en ligne. Merci Laurent, vous êtes avec nous, bonjour.
Ouais, je suis là, bonjour Pierrot et la Menji, me veux le meilleur à la population de l'Ituri.
On vous écoute, Laurent.
Je pense bien que la restauration de la paix à l'est du pays rentre primordialement dans les missions souveraines de l'État gendarme qui sont la sécurité et la protection des citoyens et leurs biens. Je pense bien que la mise en œuvre de tous les moyens logistiques, les moyens techniques permettront que cette insécurité soit bien finie. Quant à l'état de siège, je pense bien que ces derniers, d'une part, a réduit l'insécurité à 100% et les tueries. Il y a certaines avancées à saluer. J'ai suivi hier une chaîne internationale. On disait que non, on a arrêté que du cher de la peau d'écho. Donc, c'est aussi parmi certaines avancées vraiment à saluer. Quant à la mutualisation des forces FARDC ougandaises, ces derniers, quand même, ont prévu à traquer les rebelles ougandais et les autres groupes armés qui semblent les sécuriser depuis un bon moment. Il est important ici de reconnaître la diplomatie militaire du président de la République quant à ça. Quant au programme de la démobilisation, désarmement, pour moi, en tant qu'un Congolais, en tant qu'un chrétien, je lance un appel patriotique et pathétique à ces groupes armés de région de l'armée congolaise, qui est une républicaine. Les groupes armés doivent comprendre que le développement du pays est d'abord l'effort de tous et un sacrifice. Quant aux nouveaux dirigeants de l'ECC Goma, ils doivent travailler pour promouvoir la paix et la cohabitation interethnique dans les tribus, j'ai dit. Merci.
Merci beaucoup. Alors Laurent, vous avez évoqué la question de la responsabilité de l'État dans les mesures qui doivent être prises. Alors parce qu'on va écouter Peter rapidement, on revient à notre invité qui va placer Emo, on revient au dernier auditeur pour pouvoir revenir encore auprès de notre invité pour tirer la conclusion. Peter, vous êtes à Chicapa, on vous écoute rapidement pour nous permettre d'atterrir plus facilement dans cette émission. Peter, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Je dois être vraiment trop bref par rapport au temps.
Okay.
Moi, à mon humble avis, je pense que selon les témoignages, la détermination, l'engagement du gouvernement ainsi que la participation de la population de la dite province de l'Ituri prouve à suffisance que le maintien de la paix est demeure une priorité pour l'ensemble des Congolais en général. Et également, cette paix dont nous avons besoin répond également sur les résolutions du sommet mondial des chefs d'État et de gouvernement du 14 au 16 septembre 2005 dans les rubriques 54 basées sur le maintien des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Alors, à l'heure actuelle, Monsieur Pierrot, moi, ce que je voudrais un peu aborder, c'est en rapport avec la paix qui demeure une solution, une équation pour la RDC. Et à ce moment, j'invite tous les Congolais à s'approprier de cette affaire de la paix qui est une ressource rare en République démocratique du Congo. Et pour ne pas aller plus loin, Monsieur Pierrot, je tiens à signaler que la paix n'est pas seulement un problème de l'Est, c'est un problème de tout Congolais. Et nous devons, nous, Congolais, aujourd'hui, prendre la responsabilité de notre pays afin de mettre tout état en état de dehors tous les ennemis qui ont comploté contre notre pays.
Voilà.
Et en l'occurrence, moi-même, personnellement, j'ai eu à initier un projet concernant le maintien de la paix. Il y a eu la MONUSCO qui est partie à l'espace Kassai. Mais moi, je tiens à vous signaler que jusque-là, dans l'espace Kassai, il n'y a pas la paix. Et quand le chef de l'État a eu à fréquenter cet espace, on l'a parlé nécessairement des problèmes de sécurité.
Alors ça dit qu'on estime, on estime,
ministère de l'Intérieur,
Peter,
pour maintenir la paix dans tous les espaces des
Peter,
pays.
Parce que là, on est bousculé par les temps. Il y a Maître Deo qui est à Lubumbashi. On pourra revenir à lui. Rapidement, nous remettons la parole à notre invité, à Monsieur Mohamed Boulé, député national, pour réagir rapidement à ce qui a été dit par nos auditeurs. On va revenir à vous, Peter Deo, vous êtes à Lubumbashi. Le temps que vous puissiez aussi placer un mot et nous reviendrons ici dans ce studio pour la conclusion. Vous avez suivi encore, on est revenu sur la question de la responsabilité, mais il y a notre ami Debounia qui dit, Ituriens, nous sommes responsables parce que ce sont des groupes armés locaux. Il faut arriver quand même à les intégrer dans ces processus de démobilisation si ça peut être encore bien organisé et efficace.
Merci. Je dois d'abord répondre à certains des intervenants qui ont parlé le problème de la rupture des relations diplomatiques. Mmh. C'est un cas. Mmh. Normalement, c'est les gouvernements qui sont en train de nous suivre. Quelque part, le monitoring s'est fait pour prendre en compte ces revendications. Ce n'est pas ici que nous allons nous atteler pour dire oui, est-ce qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup d'implications là-dedans, et présenter les moyens nécessaires. Ça, c'est le problème de la politique générale. Donc, c'est au niveau du chef de l'État. Mm-hmm. Deuxièmement, le problème du premier ministre, les structures de l'armée. Dès lors qu'il y a la loi organique ici, les forces armées, d'une part et d'autre part, la police nationale, et complété par les statuts, les services militaires à ces règles, le mode de recrutement, le personnel militaire actif ou les policiers actifs et à retraiter. Donc le premier ministre ne peut pas, dans le cadre de la République démocratique du Congo, se réveiller pour porter son treillis et aller en opération. Il ne figure dans aucune structure, sauf la structure politico-militaire, qui est le Conseil supérieur de la défense, où il est membre, où tout se traite et puis les recommandations sont faites pour être exécutées par le gouvernement. C'est le ministre de la Défense mêmement, et lui il s'occupe de la chaîne de mise en condition, c'est-à-dire la formation, les équipements et tout ça. Donc la mise en œuvre ne concernerait pas le premier ministre, pour le voir comme un Éthiopie, de porter son uniforme et d'aller au front. Je voulais quand même que ce soit précisé. Le problème des groupes armés, parlons-en, de quoi voulons-nous? La constitution est assez claire. Quiconque prend une arme contre ce pays, c'est la haute trahison. Et dans la loi organique portant sur les forces armées de la police nationale, c'est encore interdit formellement. C'est la haute trahison. C'est pourquoi nous disons, pour décourager cela, il faudrait que notre justice militaire puisse traquer tout cela. Mm-hmm. On a la mauvaise expérience. Intégration, mixage et tout ça. Et aujourd'hui, quelqu'un, il continue toujours à prendre les armes contre. Quelles sont les causes réelles de les revendications? Si c'est pour faire la politique, il faut prendre les armes. Il faut créer son parti politique. Il faut respecter les règles du jeu. Et donc, moi, je ne suis pas pour qu'on dise, il faut remercier ces gens, comme on l'a fait autrefois pendant la transition, et de dire, bon, qui veulent, mais on ne va pas à l'armée à 45 ans d'âge, soyons sérieux. Quelqu'un qui a porté les armes et qui est responsable de certaines théories comme les, comme c'est dit maintenant. Je connais par exemple les camps de Djougou. Mm-hmm. Djougou, quand vous quittez Iga Barrière pour aller à Djougou, il y a deux communautés et qui sont séparées par la route. Mais d'un côté, chaque communauté doit avoir son groupe armé. Ce que l'intervenant de tout à l'heure de Bounelé dit, c'est fondé, parce que c'est lui qui l'a dit. On connaît qui dans tel village fait partie de ces groupes armés. On ne les dénonce pas. Et donc, ces générations-là depuis 2004, disons 2003, au gouvernement de transition. Ça fait combien de générations? On a les premiers groupes armés là, qui peut-être ont intégré l'armée parce qu'ils avaient répondu à un certain critérium. Les autres qui sont rentrés comme enfants soldats, ils sont aujourd'hui majeurs. Ils ont le goût de prendre les armes. La circulation, la traçabilité des armes et des petits calibres, c'est ça aussi.
Est-ce que vous pouvez permettre à ce que Deo place ses mots rapidement? On revient pour conclure.
Je vous en prie.
Là, je pense qu'on est bousculé par le temps. Deo, vous êtes à Lubumbashi. Juste un mot, votre intervention. Deo, vous êtes avec nous?
Il est parti.
Voilà, là on a perdu Deo, mais nous revenons à notre invité dans ce studio parce qu'on doit vraiment chuter dans cette émission. On a écouté les uns et les autres, hein. Vous êtes député national. Je sais qu'au niveau du Parlement, il y a eu les députés élus de province qui sont concernés par la sécurité, qui à un moment ont boycotté d'assister aux plénières qui devaient proroger encore l'état de siège. Et en un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette question de cette peu souhaitée vraiment par les populations de ces deux provinces, rapidement?
De toutes les façons, quand nous rentrons des vacances parlementaires, chacun de nous amène et fait les rapports des vacances parlementaires, qui décrivent les faits. Et que, en ce qui concerne les autres aspects, nous sommes là pour voter des lois. L'initiative peut venir de Notre-Dame, de nous, ou soit du gouvernement. C'est qu'il faut avouer que la réforme des services de sécurité, on en a parlé, tarde à venir. Sans cette réforme-là, nous ne pouvons pas partir de bons pas parce que on a des limites, les constats est amers, il faut ça assumer sur le gouvernement.
Merci beaucoup, monsieur Mohamed Boulé, député national, général à la retraite, ancien vice-ministre de la Défense. Merci, d'avoir accepté notre invitation et de commenter le sujet avec les auditeurs de Radio Capi. Nous allons nous retrouver sur la page Facebook pour poursuivre le débat. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Merci à Bob Landou qui a mis en œuvre ce magazine réalisé par Louange Vangou. On se retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Au revoir.